Donc nous allons poursuivre sur le thème oppression et résistance locale qu'on a déjà entamé de fait largement avec les deux interventions précédentes et notamment celle de Sébastien Chauvin. Mais peut-être pour revenir aussi sur non seulement la question des formes spécifiques de domination selon les pays, selon les configurations sociales et politiques, et les formes spécifiques de résistance qui peuvent se nouer dans ces différents types de situations, une question qui évidemment traversera l'ensemble de nos discussions, mais peut-être aussi plus spécifiquement sur la question que nous avons abordée hier soir, sur un mode un peu provocateur peut-être, en tout cas consistant, avec Renaud Lambert, hein, qui a proposé une critique des manières de nommer et de qualifier les groupes indiens et la manière dont finalement on les enfermait dans une essence indigène qui en réalité ne faisait que renouer ou que reconfigurer une forme de domination quasi coloniale ou en tout cas une forme de domination qui n'était pas forcément ajustée aux intérêts, aux formes de lutte qui pourraient être celles des populations les plus dominées de certains pays d'Amérique latine. Dans cette question-là, qui a été, et par là aussi, il critiquait certaines formes d'idéologisation écologique des causes des pays du Sud qui en niaient la dimension sociale et la vraie nature des rapports de domination qui existent dans ces pays-là. Donc je pense que cette question pourra largement revenir, mais peut-être d'autres façons, parce que la question de la nomination des groupes et de la manière dont on pense les rapports entre les cultures d'origine, les anthropologiques des sociétés considérées, et la manière dont elles s'inscrivent dans les stratifications sociales actuelles et dans les rapports internationaux de domination à composante économique qui les affectent. Cette question-là, en tout cas, doit être étudiée tout à fait sérieusement. Donc on va aborder ces questions sur deux terrains très éloignés, mais justement l'éloignement permettra peut-être de penser cela de façon plus complète, avec le cas de la Bolivie et celui de l'Inde, dans certaines régions de la Bolivie et de l'Inde, certains groupes sociaux. Donc avec Hervé Doalto, qui est doctorant en sciences politiques à l'IEPDEX, qui fait sa thèse sur le MAS bolivien, c'est bien cela, et qui a notamment publié avec Pablo Stefanoni « Nous serons des millions, Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie ». Et Nicolas Jaoul, qui est chercheur au CNRS, rattaché au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, de l'École des hautes études en sciences sociales, qui travaille sur le nationalisme hindou, les formes de résistance qu'il suppose, leur enracinement culturel, toutes choses que j'évoquais à l'instant, et qui est membre du comité de rédaction de la revue Samaj, c'est ça ? Samaj. Et dont il a co-dirigé un des numéros et qui a co-dirigé aussi un numéro de
Gradiva,
Grands hommes vus d'en bas. Voilà, donc je leur laisse tout de suite la parole. Donc, Hervé Doalto, tout d'abord.
Bonjour à tous et tous d'abord. Je voudrais remercier l'équipe du festival pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin. Alors, moi, il me semblait justement que dans le cas bolivien aujourd'hui, puisqu'on a un cas assez rare de mouvement social qui en vient à déstabiliser l'ordre politique au point de voir certains de ses représentants pouvoir accéder au pouvoir d'État et finalement mettre en œuvre même certaines des revendications centrales du mouvement social en question. Je crois qu'avec le cas bolivien, en fait, on peut essayer d'avoir une première analyse de la situation bolivienne pour tenter de voir en quoi finalement la mise en œuvre de politiques qui viseraient à satisfaire ce type de revendications finalement peut avoir du mal à échapper à l'ordre néolibéral international, pour l'appeler comme ça. C'est la raison pour laquelle en fait je vais m'intéresser de manière centrale à une politique précisément qui va être la politique des hydrocarbures en Bolivie, et plus particulièrement la nationalisation du gaz. Alors pourquoi ce choix ? Bon, d'abord, je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur quelques caractéristiques du mouvement social bolivien, puisque le mouvement social bolivien dont on parle aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le mouvement social bolivien d'hier. Et je me réfère essentiellement aux années, à cette séquence qui va de la Révolution nationale de 1952 jusqu'à la mise en place des premières réformes néolibérales au milieu des années 80, lors desquelles on avait un mouvement syndical ouvrier, en particulier chez les mineurs, qui était extrêmement important et structurant. C'était en fait le noyau articulateur de l'ensemble du mouvement populaire bolivien. Donc en fait, suite à la crise de l'hyperinflation qui a frappé la totalité de l'Amérique latine et qui a souvent servi en fait de prétexte et de justification à l'imposition de réformes inspirées du consensus de Washington, ces réformes-là vont frapper en premier lieu, et ce même si les acteurs à l'époque n'en ont pas forcément conscience, vont frapper en premier lieu ce syndicalisme traditionnel. À savoir que par exemple, toutes les réformes de privatisation ou de démantèlement des grandes entreprises publiques, en définitive, vont affecter ce syndicalisme ouvrier dont j'ai parlé précédemment. Donc en fait, il n'est pas tout à fait étonnant que ce soit le mouvement paysan à partir duquel on va parvenir à reconstruire des formes de contestation des politiques, de l'ordre politique en général, dans la mesure où ce mouvement paysan va être sans doute l'un des moins affectés en fait, par les réformes néolibérales en tant que telles. Donc il ne va pas subir ce processus d'atomisation qui va affecter le reste du mouvement populaire. Alors même que ce mouvement paysan se voit attaqué comme contre-coup, on va dire, de la mise en œuvre de ces politiques-là sur un certain nombre de réformes liées à la terre, mais plus particulièrement, on voit émerger au sein du mouvement paysan un groupe d'entrepreneurs politiques, pour les qualifier ainsi, c'est le mouvement des cultivateurs de coca. Vous avez dû entendre parler de ce mouvement-là, dont est issu Evo Morales. Donc le mouvement de cultivateurs de coca qui, dans ce nouveau paradigme de guerre internationale contre les drogues, pensé, théorisé depuis Washington, va avoir comme conséquence en fait, la mise en œuvre de toute une série de politiques qui visent à éradiquer totalement la coca en Bolivie au milieu des années 90. Donc la question de la résistance à l'éradication de la coca et finalement la résistance à la privatisation des ressources, enfin à la gestion privée des ressources naturelles vont quasiment de pair, puisque en Bolivie, quelque part, c'est en tout cas le fruit du travail politique des cocaleros, on considère la feuille de coca comme une partie intégrante du patrimoine national, comme une ressource naturelle finalement comme une autre. Donc à partir de là, ce qu'on voit au début des années 2000, c'est l'émergence d'un cycle de lutte particulièrement intense, dont l'axe principal, c'est justement la critique à la gestion privée des ressources naturelles. Donc on a toute une série de mouvements qui va fondamentalement commencer en 2000 avec la guerre de l'eau de Cochabamba. Peut-être que certains d'entre vous ont vu un film qui est sorti très récemment qui s'appelle Même la pluie, qui fait référence à ce conflit. Donc la guerre de l'eau de Cochabamba, puis la guerre du gaz à El Alto, toute une série de conflits sociaux qui vont être quelque part mythifiés par les mouvements sociaux eux-mêmes, d'où l'expression de guerre. Ces conflits, en fait, ont trois caractéristiques communes. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est le fait qu'elles soient plus ou moins toutes centrées sur des revendications liées aux ressources naturelles et à l'exercice de la souveraineté nationale sur ces ressources naturelles. Le fait que ce soit aussi, j'ai déjà mentionné, donc des mobilisations qui sont à l'initiative d'organisations rurales, alors qui d'une certaine manière vont s'articuler à des mouvements sociaux urbains par la suite, mais fondamentalement on a cette articulation rurale-urbain qui est de l'initiative des paysans. Et troisième élément, ce sont des conflits qui vont avoir une répercussion très forte sur le système politique. Simplement pour citer les conséquences de deux de ces conflits, La gare du gaz dell'Alto, par exemple. Et l'Alto, c'est la ville qui est à la frontière, qui est à la limite du siège du gouvernement qu'est La Paz. Donc la gare du gaz dell'Alto va être réprimée dans le sang, avec plus d'une soixantaine de victimes, et va déboucher sur la fuite du président alors en place, Gonzalo Sánchez de Lozada, dont les États-Unis à ce jour refusent l'extradition. Donc ce conflit-là va quasiment aboutir à la mort du système de parti tel qu'on le connaît, qui était le système de parti finalement qui gouvernait la Bolivie depuis la transition démocratique de 1982. Donc on a à partir de là une rupture entre la représentation politique et les mobilisations sociales. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater sur le terrain, parce que j'ai oublié de le mentionner, je suis en train de terminer ma thèse, moi j'essaye, suite à un terrain, on va dire, qui m'a un petit peu échappé des mains, parce que j'ai fini par rester quasiment plus de 4 ans en Bolivie, donc quasi-totalité du premier mandat d'Evo Morales. Donc, moi, ce que j'ai pu constater à travers les entretiens que j'ai pu faire avec différents protagonistes des organisations sociales, c'est que généralement, même s'il y avait une critique depuis les organisations sociales aux effets des réformes néolibérales, les dirigeants eux-mêmes étaient toujours liés à ce qu'on appelait en Bolivie à l'époque les partis traditionnels. Donc en fait, 2003, c'est avant tout un moment de rupture entre les organisations sociales et les partis traditionnels, les organisations sociales urbaines. Ce qui va permettre en fait de comprendre pourquoi, en définitive, un parti paysan, à partir de la guerre du gaz dell'Alto, va réussir à construire son hégémonie dans les villes. Donc j'ai parlé de la guerre du gaz dell'Alto, on peut parler aussi de la crise de mai-juin 2005, qui quelque part s'inscrit dans la continuité de la guerre du gaz, puisque là on assiste à des manifestations nationales pour la nationalisation des hydrocarbures, et à la démission du président en place, nouveau, Carlos Mesa, ce qui va donc déboucher sur les élections anticipées de décembre 2005, qui vont être remportées par Evo Morales. Alors Evo Morales, plus qu'Evo Morales lui-même, en fait, je vais évoquer le cas de son propre parti, le mouvement vers le socialisme. Alors, le MAS, c'est un parti qui a cette spécificité d'être, je dirais, intrinsèquement lié au mouvement social, puisqu'il est défini par ses militants eux-mêmes comme un instrument politique au service des syndicats paysans. Autrement dit, c'est une structure qui est conçue comme un outil de représentation des syndicalistes paysans eux-mêmes dans le champ politique. Donc, les dirigeants du MAS le disent eux-mêmes, hein, là où les organisations sociales fonctionnent bien, montrent un degré de loyauté à l'égard du MAS très très fort, il n'y a pas de distinction, en fait, entre le syndicat et le parti. Et contrairement à certaines formes de rapports, bon, traditionnellement, hein, dans la politique de gauche ouvrière, bon, les partis ouvriers, c'était ceux qui discutaient des affaires syndicales, notamment des stratégies au sein du syndicat, etc. Là, on voit même plutôt l'inverse, notamment dans les syndicats de Cocaleros, parce que généralement, on a un délégué, un secrétaire à l'instrument politique. Autrement dit, au sein du syndicat, on a un secrétaire qui va avoir comme tâche de se lier aux autres organisations. Alors, le MAS, ce n'est pas simplement un parti qui est lié au mouvement social, c'est aussi un parti qui lui reste fidèle du point de vue des revendications, des plateformes programmatiques. Si on regarde, par exemple, les programmes du MAS lors des deux élections présidentielles de 2002 et 2005, on a des revendications qui sont pratiquement le décalque des revendications qui sont portées par le mouvement social. Quand je fais référence au mouvement social, hein, ça va au-delà des organisations sociales en tant que telles, et en particulier des organisations sociales paysannes. Donc, très clairement, les deux axes sur cette période, c'est la nationalisation des ressources naturelles, et en particulier des hydrocarbures, et la convocation d'une assemblée constituante. Donc, si on prend, d'une part, l'évolution du champ politique, du rapport entre le politique et le social, et d'un autre côté, donc, cette configuration partisane particulière, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ce que j'ai appelé là cette traduction électorale, hein, presque mécanique, de la radicalisation sociale en Bolivie. C'est presque un cas d'école, en fait, hein, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays latino-américains, le cas bolivien est très très distinct, par exemple, du cas vénézuélien, Parce qu'au Venezuela, le parti de Chavez, à l'époque, le mouvement pour la 5e République, Movimiento Quinta República, c'est un mouvement qui est, dans sa constitution même, très très autonome du mouvement social, des organisations sociales en tant que telles. Et on peut dire aussi qu'il est très distinct, par exemple, d'un cas comme celui du Brésil. Parce que le Parti des travailleurs de Lula, par exemple, c'est un parti où il y a un rapport qu'on pourrait qualifier de presque similaire aux organisations sociales quand on regarde ce qui se passe en Bolivie. Hein, parce que, notamment, on a un rapport très très fort entre le PT et la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs, qui est la principale centrale ouvrière au Brésil. La grande différence, en fait, c'est que la victoire de Lula intervient dans un moment de recul très très fort de la mobilisation sociale, qui fait que la victoire de Lula intervient presque comme un espèce de substitut de pis-aller, enfin c'est pas vraiment un pis-aller quand on gagne des élections, a fortiori des élections présidentielles, mais comme une espèce de pis-aller aux défaites qui ont été accumulées sur le terrain social. Donc, en fait, le gouvernement de Lula est un gouvernement qui évolue sans pression sociale particulière, à part quelques organisations. Donc là, en Bolivie, on a un parti gouvernant qui est intrinsèquement lié aux mouvements sociaux et qui, en plus, fait face à une pression de la mobilisation sociale très, très forte. Donc, lorsque le MAS remporte les élections, il bénéficie d'une légitimité très très forte issue de ces 5 années de mobilisation sociale très intense. À tel point que, peut-être que certains d'entre vous connaissent la figure du vice-président, qui a la particularité d'être sociologue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de sociologues devenus vice-présidents sur la planète, mais donc Alvaro Garcia Linera apparaît un petit peu comme l'un des théoriciens de ce processus de changement en Bolivie, et il a immédiatement évoqué le gouvernement en place comme un gouvernement des mouvements sociaux. Ce qui en soi est évidemment un oxymore, une contradiction dans les termes, mais qui va quand même trouver des formes de projection, de matérialisation à travers 2 éléments essentiels. D'abord, la présence de leaders syndicaux dans les cabinets ministériels, fondamentalement dans les premiers cabinets ministériels. Mais globalement, il y aura toujours une espèce de quota réservé aux leaders syndicaux. Notamment pour donner un seul exemple, hein, en 2006, donc pour la première année de mandat de Morales, le ministère des Mines, qui est un ministère très important en Bolivie, va être confié aux coopératives minières. Et c'est donc le dirigeant de la Fédération des coopératives minières qui va devenir ministre des Mines. Deuxième élément, c'est les sessions semestrielles d'évaluation de l'action gouvernementale par les organisations sociales elles-mêmes, qu'elles soient membres du MAS ou pas. Donc, au-delà du fait de savoir si finalement l'impact de ces sessions d'évaluation est purement symbolique, ce qui est d'ailleurs plutôt mon avis, on a quand même une espèce d'effort permanent de mise en scène de cette relation fusionnelle entre organisation sociale et gouvernement. Alors, je dirais que le grand paradoxe finalement, le premier paradoxe de ce processus, il a à voir avec cette configuration partisane particulière, parce que tel que je l'ai présenté, on a quasiment une configuration qui pourrait apparaître idyllique, quoi. Finalement, c'est les mouvements sociaux au pouvoir eux-mêmes. Finalement, on voit quand même qu'il y a certaines limites à cette configuration partisane particulière, dans la mesure où on peut qualifier le MAS comme une espèce d'expérience d'expérience partisane de parti sans politisation. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que finalement, le fait qu'il n'y ait pas de différenciation entre le syndicat et le parti politique, l'un des effets, c'est que les militants du MAS ont tendance à percevoir leur engagement politique comme la simple continuité ou l'une des ramifications, disons, de leur engagement syndical. Autrement dit, on agit au sein du MAS comme un syndicaliste. Et on ne cesse jamais finalement de se percevoir comme un syndicaliste au sein du MAS. Donc en fait, le MAS, c'est un espace assez particulier, quand on l'analyse de près, puisqu'on y voit comme enjeu dominant le règlement de conflits entre syndicats, quelque part. Ce qui crée une espèce de disposition à la naissance de dynamiques corporatistes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Le fait fondamentalement que ces organisations-là, en définitive, vont tenter de... En fait, elles,
ces organisations vont tenter de faire primer leurs propres revendications en tant que syndicat sur les revendications des autres syndicats. Et en définitive, on a tendance à perdre un peu de vue la politique que le MAS devrait élaborer au sein du gouvernement, etc. etc. Ces dispositions, pour les nommer ainsi, dans un premier temps, elles vont être relativement contenues par le fait que l'enjeu déterminant du premier mandat d'Evo Morales, ça va être la promulgation d'un nouveau texte constitutionnel. Alors pourquoi est-ce que je parle du nouveau texte constitutionnel qui a été promulgué en février 2009? Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il va canaliser ces penchants corporatistes au sens où les organisations elles-mêmes, d'ailleurs elles ne vont pas forcément y participer par le truchement du MAS, le MAS va permettre de faire élire des constituants paysans, des constituants issus du mouvement social, mais en définitive, l'essentiel du travail politique de proposition, de projet, de texte constitutionnel, etc., etc., il va se faire directement par les organisations elles-mêmes. Et le deuxième élément, c'est qu'on a une configuration politique jusqu'en 2009 d'une opposition très très forte, très exacerbée, entre le gouvernement et son opposition de droite. Donc, toute la politique nationale, finalement, va être surdéterminée par ce conflit, et c'est ce qui va expliquer qu'on va avoir une forme d'unité du mouvement populaire au cours de cette période 2006-2009, autour du texte constitutionnel, contre l'opposition, mais qui, en définitive, ne va déboucher à aucune sédimentation, je dirais, de cette expérience-là. À savoir que dès que le texte constitutionnel est promulgué, c'est une phase au terme de laquelle, d'ailleurs, l'opposition est quasiment décrédibilisée, hein, puisque, au passage, on va quand même avoir une tentative de déstabilisation en fin 2008 de la part de cette opposition-là. Donc, on a une opposition qui opte pour un règlement de la crise, on va dire, radical, tentative de coup d'État, pratiquement, qui va aboutir à sa marginalisation. Donc, on a une droite qui est quasiment absente. Un petit peu dans un scénario d'ailleurs assez similaire à ce qu'on a observé au Venezuela ces dernières années. Ce qui est intriguant en fait, c'est que c'est à partir de 2009 qu'on va assister à une augmentation significative de la conflictualité sociale en Bolivie. C'est quand même assez particulier parce qu'on a un gouvernement qui est censé représenter les intérêts des mouvements sociaux, qui ne parvient pas à canaliser, on va dire, ces dynamiques corporatistes dans la mesure où on a des niveaux records de conflictualité sociale. Pour donner simplement un seul chiffre, pour ne pas vous assommer, j'aurais pu faire un PowerPoint, donc j'ai opté pour un PowerPoint allégé. Pour vous donner simplement un chiffre, aujourd'hui en Bolivie, on a un niveau record depuis qu'on a commencé à essayer de comptabiliser un tant soit peu sérieusement les conflits sociaux, à savoir 1970. À partir de ces bases de données-là, en fait, en 2010, on a atteint un chiffre record de plus de 800 conflits sociaux sur l'année. À savoir que en fait, pour vous donner une idée, tous les jours, on a trois nouveaux conflits sociaux qui s'ouvrent, trois nouveaux fronts de conflictualité sociale. Alors, il y a quand même une continuité sur l'ensemble de la période qui sont les conflits liés aux questions salariales, qui sont animés par des syndicats qui sont issus de la tradition du syndicalisme ouvrier, qui ont réussi à survivre à l'ère néolibérale et qui ont la particularité d'être des syndicats qui restent très autonomes à l'égard du gouvernement, hein, et à l'égard du MAS. Ce sont d'ailleurs des syndicats qui sont toujours conservés, disons, par des petites formations trotskistes dont le poids est infiniment plus petit que celui qu'ils ont dans la sphère syndicale. Alors ces conflits salariaux, c'est de l'ordre de 40% de la conflictualité sociale. Après, ce qu'on constate, c'est que pour le reste des conflits sociaux, jusqu'en 2009, on avait comme deuxième cause, deuxième source de conflits, les conflits donc, entre gouvernement et opposition, donc des conflits qui s'inséraient dans cette grille de lecture générale. Aujourd'hui, très clairement, on a des conflits qui sont liés à des revendications qui, peu ou prou, font référence aux ressources naturelles, à nouveau, alors que c'était quelque chose qui avait disparu au cours de la première période. Donc, très clairement, on voit que ces conflits, ils sont quelque part structurés ils ont à voir avec cette configuration partisane que j'ai évoquée précédemment. à savoir que ce sont des conflits qui ont la caractéristique souvent d'être internes au sein du MAS, au sein du parti gouvernant, et qui découlent d'une première raison qui est que ce sont les organisations, on va dire, qui ont été les moins bien servies dans une première étape que j'ai qualifiée de lutte de place au sein de l'administration publique. Autrement dit, les organisations qui ont trouvé le moins de postes dans l'administration d'État sont celles qui sont les plus enclines à se mobiliser sur des questions liées aux ressources naturelles. Alors, on aurait deux clivages par rapport à ça. Un clivage qui est lié au fait... plus une organisation apparaît comme déloyale à l'égard du MAS, plus elle est encline à se mobiliser. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les cultivateurs de coca, par exemple, ne se mobilisent pratiquement plus. Aussi parce qu'ils sont très présents dans l'appareil d'État. Deuxième élément, c'est le découplage qui est commun à l'ensemble des organisations, et y compris les cultivateurs de coca, entre direction et base. Autrement dit, ce à quoi on assiste, c'est la manifestation d'une professionnalisation très très rapide et très très forte d'une nouvelle classe politique issue des organisations sociales, qui fait que, en quelque sorte, le malaise des organisations sociales à la base ne trouve plus de relais au sein des dirigeants qui eux-mêmes sont très insérés dans le champ politique institutionnel, si on peut l'appeler comme ça. Donc on a deux éléments ici qui sont... qui permettent de comprendre aussi pourquoi finalement il y a une configuration particulière qui fait que toutes les organisations sociales ne se mobilisent pas nécessairement autour de ces revendications liées aux ressources naturelles. Alors pourquoi on voit ressurgir ces revendications liées aux ressources naturelles? Ça nous amène, je vais essayer d'être très rapide, il faut évoquer évidemment les politiques liées aux hydrocarbures. Très clairement, ce qu'on a eu en Bolivie depuis la victoire d'Evo Morales, c'est une orientation que les spécialistes de la Bolivie qualifient dans un consensus général de néo-développementiste. Autrement dit, on a affaire à une politique qui est envisagée en deux étapes. Une première étape qui est nationalisation des hydrocarbures, nationalisation des ressources naturelles de manière générale. Mais dans le cas des hydrocarbures, en fait, on a procédé à ce qu'on a appelé une nationalisation sans expropriation. Autrement dit, on a recréé une entreprise nationale, IPFB, qui a été privatisée dans les années 80. Donc on l'a recréée, on a fait de cette entreprise-là l'actionnaire majoritaire de joint ventures qu'on a créé avec les partenaires privés. Voilà, en gros, c'est ça le panorama global de cette mal nommée nationalisation, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à la qualifier de renégociation des contrats. À terme, la deuxième étape de cette orientation économique, ça doit être l'industrialisation des ressources naturelles. Autrement dit, on est dans un schéma développementiste digne des années 50-60. L'idée, c'est avoir une industrialisation qui permette une meilleure insertion sur le marché mondial par la fin des importations à tout craint. Alors, ce qu'on constate, c'est un impact de cette politique très très fort et très positif sur les indicateurs macroéconomiques. Notamment, on voit un taux de croissance qui était négatif à l'époque où Evo Morales prend le contrôle de l'appareil d'État. Qui est de nouveau à flot, avec aux alentours de, un taux de croissance qui se stabilise autour de 4%, et qui a la particularité du fait de la faible insertion de la Bolivie dans les marchés financiers mondiaux, de s'être maintenue en dépit de la récession en 2009. Alors j'aurais pu donner d'autres chiffres, on a des réserves internationales qui explosent, globalement des exportations aussi qui explosent, donc beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et ce qu'on voit, c'est que très rapidement, c'est les organisations que j'ai évoquées précédemment vont justement commencer à formuler toute une série de revendications liées à l'usage de la rente. Vous avez peut-être entendu parler d'un conflit très très difficile, très très dur qui a eu lieu cet été en août 2010 dans la région de Potosí, parce que, bon, on en a beaucoup parlé, en l'occurrence pas pour intérêt pour la politique bolivienne, mais parce qu'il y avait des touristes français qui étaient bloqués. Et donc le cas de Potosí est assez intéressant parce qu'on y a vu une région qui était considérée comme un bastion du MAS organiser toute une série de blocages et de mobilisations très très fortes contre le gouvernement central pour obtenir finalement rien de plus qu'une part significative, plus significative en tout cas, de la rente liée aux hydrocarbures. Alors pourquoi des revendications liées aux hydrocarbures directement, enfin à la rente des hydrocarbures? Tout simplement parce que depuis 2005, on a un impôt qui s'appelle l'IDH, l'impôt direct sur les hydrocarbures. L'IDH, en fait, s'apparente à un espèce de mécanisme de redistribution de la rente démocratique qui fait que sur les bénéfices des entreprises multinationales et l'entreprise bolivienne elle-même d'ailleurs, on a 32% de ces bénéfices qui sont redistribués aux municipalités, aux gouvernements régionaux, aux universités, à la police, aux armées et même à des populations indigènes de manière directe. Donc en fait, on a non seulement un émiettement de la rente, mais aussi, comment dirais-je, un impôt qui est considéré comme un acquis pour la plupart des organisations sociales qui font de l'IDH en fait le noyau dur de leurs revendications et qui font aussi une équation très directe entre le fait d'obtenir des ressources et le fait de pouvoir accéder au développement. Alors qu'en fait, bon, c'est quand même assez problématique pour toute une série de raisons, parce que pour les mentionner très très vite, hein, en gros, on ne sort pas d'un paradigme néolibéral du développement qui est un développement très localisé, en fait. À l'époque du néolibéralisme, dans les années 90-2000, hein, on était dans l'ère des projets. Hein, le développement, ça passait par des petits projets locaux, avec des communautés indigènes, etc. etc. Et ben là, paradoxalement, on voit revenir ce type de schéma où, au lieu d'envisager le développement comme une question nationale, on en revient à nouveau à la localiser de manière très très forte. Et le grand absent, quelque part, de ces plans de développement, finalement, c'est toujours l'État central. Dans la mesure, par exemple, où l'IDH va se coupler à d'autres mécanismes qui ont été introduits par la nouvelle Constitution, je pense notamment à la consultation indigène. Ça va faire écho à ce qu'a pu dire, j'imagine, parce que je n'étais pas là, Renaud Lambert, hier soir, mais donc avec la nouvelle Constitution, on a un mécanisme qui est que les populations indigènes doivent être consultées pour faire de l'exploration ou de l'exploitation de ressources naturelles sur leur territoire. Le problème de ce mécanisme-là, c'est qu'en fait, on a une négociation qui est complètement asymétrique entre les populations indigènes et des multinationales qui sont amenées à négocier directement, hein, sans quasiment l'intermédiation de l'État. Et en définitive, ce à quoi on assiste, c'est que c'est à des communautés indigènes qui acceptent des montants absolument dérisoires, finalement, du moment qu'ils arrivent à toucher un peu d'argent. Allez-y, vous pouvez exploiter. Donc c'est vrai que ça permet de relativiser tout le discours pachamamiste sur le lien qui est fait entre écologie et préservation de l'environnement et croyances indigènes. Alors au-delà de ça, on a même... tout cela a lieu quand même dans un contexte de pression très très forte des multinationales, puisque à partir du moment où il y a eu cette nationalisation sans expropriation, qui ménage quand même les intérêts de ces multinationales qu'on n'a pas renvoyées chez elles, hein, très concrètement, les multinationales ont décidé finalement de faire la grève de l'investissement. Autrement dit, aujourd'hui, les multinationales finalement attendent du gouvernement un certain nombre d'arbitrages en leur faveur, puisqu'elles se plaignent finalement d'un environnement économique instable et en définitive il y a une condamnation implicite de cette nationalisation-là. Donc effectivement on a des investissements qui sont en chute libre de la part de ces multinationales, mais en plus le gouvernement Morales a accepté de poursuivre les exportations à l'égard envers ces pays-là. Bon, pour avoir une idée de ce que représente le gaz bolivien comme enjeu à l'échelle du continent, j'ai mentionné simplement un chiffre. L'État de Sao Paulo, qui est l'État le plus industrialisé du Brésil, consomme, au niveau de son énergie, c'est 80% de gaz bolivien. Donc, évidemment, l'État de Sao Paulo dépend directement de ce qui se passe en Bolivie. La réaction donc, du Brésil, comme de toute une série de pays voisins, comme l'Argentine, Paraguay, etc., ça a été de dire, bon, OK, vous pouvez faire ce que vous voulez du point de vue de la gestion de la rente, mais en revanche, vous continuez à exporter. Le problème étant qu'aujourd'hui, tout plan de développement endogène, comme on dit en Bolivie, donc un développement interne, finalement, il est quasiment condamné par le fait que les Boliviens doivent satisfaire avant tout les besoins énergétiques de leurs voisins. Alors qu'on parle quand même d'un pays qui est producteur de gaz, mais dans lequel il n'y a pas de connexion domiciliaire au gaz, par exemple. Et c'est ce qui fait que, pour l'instant, tous les projets d'industrialisation, de reconstruction d'IPFB, etc., sont à l'arrêt. L'entreprise nationale, par exemple, elle est tellement en crise aujourd'hui qu'on envisage un plan de restructuration sous l'égide de la Banque mondiale, qui est quand même un échec pour un gouvernement comme le gouvernement Morales. Donc, ce qu'on constate, pour conclure, en deux mots, c'est au-delà finalement du fait qu'on ait des indicateurs macroéconomiques au vert et beaucoup de rentrées d'argent dans les caisses de l'État, ben, la gestion des ressources naturelles, finalement, il n'y a pas vraiment de rupture avec ce qui était en vigueur sous le néolibéralisme, puisqu'on a un modèle de développement qui est encore et toujours fondé sur un modèle primo-exportateur. Autrement dit, on a 82% des exportations qui sont tirées des ventes d'hydrocarbures et de minerais. Autrement dit, on a une base de l'économie qui est très, très restreinte à cette rente-là. Et donc, on a une forte dépendance non seulement au prix des matières premières, mais aussi à la quantité de réserves de ces matières premières-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la réalité des réserves en gaz. On estime qu'aujourd'hui, en Bolivie, alors qu'on pensait qu'on aurait du gaz pour une cinquantaine d'années, les dernières estimations, c'est que là, on en aurait pour simplement 5 ou 10 ans. Donc ça remet tout en cause, toute la politique du gouvernement depuis ces 5-6 dernières années. Et aujourd'hui, finalement, au lieu de penser rapidement l'industrialisation, comme on n'est pas en mesure de le faire par rapport à... pour les raisons que j'ai indiquées, ce qu'on recherche finalement, c'est un petit peu la nouvelle poule aux œufs d'or, à savoir le lithium et le fer, sachant que ce sont deux richesses naturelles qui sont largement convoitées par les puissances. Donc, par exemple, aujourd'hui, des entreprises comme Total sont Bolloré sur le lithium, sont vraiment sur la brèche. Et en définitive, on ne parle toujours pas du modèle de développement, puisque finalement, on a l'impression que tous les acteurs sont à la fois contraints et prisonniers d'une certaine perception et d'une certaine représentation de ce que sont les ressources naturelles. Voilà, je vais terminer. Merci.
Bonjour, et puis un grand merci aussi à Bertrand et à l'association Raison d'Agir de m'avoir invité. J'apprends vraiment plein de choses et je crois qu'il y a vraiment plein d'entrées et de thèmes communs, effectivement, qui permettent de voir que la mondialisation peut être approchée, qu'elle se tisse comme ça et qu'elle se déploie dans différents lieux, dans différents contextes, avec ses spécificités aussi. Voilà, donc j'ai vu vraiment depuis hier soir, en fait, j'arrête pas d'entendre des choses qui me font penser à ce que je vais dire, donc je vais pas les détailler, mais vous verrez qu'il y a plein de points de résonance. Pour me présenter un tout petit peu, alors je suis pas, en fait, je suis issu du Centre d'études de l'Inde, j'ai fait ma thèse là-bas, mais depuis j'ai été rattaché à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, de l'EHESS, un labo de l'EHESS aussi. Moi-même, en fait, je crois que j'ai eu un parcours un peu de terrain un peu similaire. J'étais parti au départ comme étudiant en sociologie politique sur le terrain en Uttar Pradesh, donc dans un contexte très, très similaire, où là, les intouchables, donc les populations les plus défavorisées, discriminées, etc., étaient arrivés au pouvoir suite à une mobilisation politique, celle de leur parti, le BSP. Donc voilà, au milieu des années 90, les intouchables sont arrivés au pouvoir, et j'étais arrivé en Uttar Pradesh un peu pour faire du terrain et aller voir un peu ce que les intouchables allaient faire du pouvoir, et comment aussi dans les communautés villageoises, etc., ce pouvoir pouvait être utilisé pour reconfigurer les rapports sociaux, amener des rapports sociaux plus égalitaires, etc., et toutes les luttes qui pouvaient être aussi motivées par le fait que le parti était au pouvoir, qu'il y avait des députés locaux qui pouvaient appuyer ces luttes, etc. Voilà. Donc, ça, c'était... Donc, j'ai fait mon terrain, ça remonte maintenant un peu. C'était... entre 1997 et 2001, donc moi aussi j'étais un peu happé par le terrain, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu anthropologue, je ne suis plus politiste. Je pense que ça a peut-être un petit peu un lien. Voilà, donc je suis retourné là sur ce terrain du Uttar Pradesh. Ce parti intouchable s'est vraiment affirmé, a réussi à se consolider après ses gouvernements successifs, notamment à détourner pas mal d'argent et du coup à consolider vraiment sa position locale. Oui, c'est un parti qui a fait de la politique avec les moyens du bord, sans se soucier du tout d'être politiquement correct, et qui a notamment pas mal tapé dans les fonds de la corruption, etc., pour se consolider, des pratiques politiques qui ont qui sont d'ailleurs très critiquées par la base du parti, puisqu'au départ, c'est un parti qui s'est affirmé en créant un véritable mouvement social dans les villages, des revendications. Et beaucoup d'activisme qui a suscité beaucoup de vocations militantes dans les villages et qui, une fois arrivé au pouvoir, s'est vraiment complètement transformé et a complètement abandonné cette base. Donc on avait un mouvement social un peu qui vivotait un peu à la marge, qui essayait toujours de profiter de cet accès au pouvoir, de faire en sorte que le pouvoir ait des effets aussi au niveau local, tout en étant complètement dissocié de ce parti qui a notamment bloqué toutes les vocations militantes et tous ces militants qui espéraient pouvoir un jour être élus et faire des carrières politiques. Alors, ce qui s'est passé là, je reviens en fait d'Inde, j'ai passé le février-mars là-bas, donc j'ai pu constater une forme de ce qu'on appelle en Inde la NGOisation, donc l'ONGisation de ce mouvement social qui a aujourd'hui trouvé dans la société civile internationale et dans la promotion de la cause Dalit dont je vais vous parler maintenant, des ressources pour continuer ce mouvement et notamment des ressources financières. Donc c'est assez intéressant. J'étais parti sur une idée assez critique que je garde toujours d'ailleurs sur ce qu'implique justement cette reconnaissance internationale de la question Dalit avec tous les stéréotypes auxquels ça peut mener. Donc je parlerai aussi ce que j'ai entendu hier sur Pachamama, évidemment. Bon, vous verrez, il y a des choses un peu communes. En même temps, bon, ben, voilà, c'est l'intérêt aussi d'aller sur le terrain et de voir un peu ce que les gens font de ces ressources, et donc ça me mène à avoir une vision un peu moins, enfin toujours critique, mais en même temps de quand même aussi rendre hommage à ce que les gens à la base, que les militants de la base sont capables de faire et comme ils sont et éventuellement de détourner ces appels à la bonne gouvernance, etc., pour continuer à produire du politique sur place et à politiser les milieux défavorisés, etc. Donc je vais avoir une vision quand même un peu plus nuancée en essayant de souligner un peu les aspects positifs et les espoirs qu'on peut continuer à miser sur cette capacité à la base de produire du politique. Alors, je vais commencer par faire une petite explication sur qui sont les Dalits, etc. Peut-être je reclique. Ah ouais, d'accord. Donc moi aussi j'ai préparé mon petit PowerPoint. Voilà. Peut-être si je clique là, non. Je suis pas très doué en PowerPoint. Donc ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc voilà, j'ai préparé donc pour que vous ayez un peu les termes, parce que je vais utiliser aussi pas mal d'acronymes. Alors les Dalits, sont 16,5% de la population indienne, donc ça fait quand même une sacrée population. C'est environ, on va dire, 180 millions d'individus aujourd'hui. Donc c'est une population très défavorisée. Une grande partie d'entre eux sont des journaliers agricoles dans les campagnes ou de tout petits fermiers très marginaux. Évidemment, bon, il y a la problématique, c'est pas seulement économique. Ce qui caractérise vraiment l'intouchabilité, c'est la discrimination. C'est le fait d'appartenir à des castes impures, indésirables dans certains lieux, etc. Bon, je passe là-dessus. On définit les Dalits. Alors, c'est l'État en fait qui a établi, donc même l'État colonial en 1935, qui a fait une liste des castes intouchables pour mettre en place des politiques de discrimination positive. Qui était censé permettre la représentation de ces populations, de ces castes dans l'emploi public, dans la représentation politique, puisqu'il y a des sièges réservés par exemple dans toutes les assemblées élues, et ça descend, donc ça va du Parlement national aux assemblées élues provinciales jusqu'aux municipalités. Et puis dans l'éducation, il y a effectivement c'est toujours basé sur le pourcentage de la population, donc 16,5% de diplômes universitaires qui sont réservés aux intouchables, qui peuvent réussir des concours du coup avec des notes inférieures à celles des catégories qui ne bénéficient pas de cette discrimination positive. Donc ça a véritablement permis, donc c'est des politiques qui ont été reconduites à l'indépendance et qui ont véritablement permis l'émergence aussi d'une classe moyenne, d'une petite bourgeoisie administrative, de petits fonctionnaires, il y a même des hauts fonctionnaires, qui ont été évidemment très très importants dans ce mouvement d'émancipation. Alors, cette discrimination positive et cette catégorie, donc on les appelle les schedule castes, donc les castes répertoriées, donc qui font partie de des castes éligibles donc au bénéfice de cette discrimination positive. C'est vraiment le fruit d'un combat politique qui a été mené par leur leader à l'époque coloniale, qui était Ambedkar, donc qui était lui-même un intouchable, qui a fait des études brillantes aux États-Unis, en Angleterre, qui est revenu avocat et à qui s'est opposé au mouvement nationaliste, qui avait une approche un mouvement nationaliste très dominé par les hautes castes et donc qui n'avait pas la même sensibilité par rapport aux questions intouchables, et donc qui a vraiment mobilisé, etc. Et donc il y a eu un compromis à un moment, justement, dans les années 30, qui a débouché sur cette discrimination positive. Donc cette discrimination positive est vraiment vécue comme un acquis social de ces luttes, et donc a un caractère très, très politique aussi. Alors la terminologie, donc là vous voyez, je vous ai mis les différents noms, Dalit, Harijan, Schedule Caste. Alors, les questions de terminologie sont très, très importantes dans la problématique de l'émancipation des intouchables. Alors, Harijan, ça veut dire peuple de Dieu. Donc ça, c'était une définition très moraliste qui avait été donnée par Gandhi pour essayer de revaloriser ces intouchables et puis donner une espèce de... en leur donnant une dimension religieuse, morale. Et puis, c'était très... il y avait pas mal d'emprunts aussi au christianisme, à une image biblique du pauvre, souffrant et résigné, donc capable de susciter la compassion. Donc ça, c'était une définition qui était censée favoriser, un nom qui était censé favoriser l'acceptabilité des intouchables pour les milieux dominants, les hautes castes, mais qui a été vécu comme quelque chose de très condescendant par les militants de l'émancipation, par les Dalits eux-mêmes. Et donc, il y a eu des luttes symboliques importantes pour imposer un autre terme, le terme de Dalit. Alors, Dalit, on peut le traduire comme opprimé. Littéralement, ça veut dire broyé. Donc, c'est vraiment une image. Donc, c'est une façon déjà de se définir soi-même, ce qui est déjà important dans un mouvement d'émancipation. Et puis, c'est une façon aussi de renvoyer à la société... plutôt qu'une image charitable d'elle-même qui fait le bien des pauvres petits Harijan, donc ils sont des gens improtégés, etc. C'est plutôt une façon de se poser comme un sujet émancipé et puis de renvoyer à la société sa violence plutôt que sa charité. Voilà, on est des broyés, donc la société nous broie. Voilà, donc c'est une définition de soi qui est beaucoup plus offensive par rapport à la société. Puis une volonté d'énonciation du stigmate pour dénoncer la violence de la caste. Alors on peut y voir un peu un équivalent de l'opprimé dans le marxisme, l'opprimé comme étant le produit négatif d'un système d'une économie, du capitalisme, voilà, qui broie aussi et qui réduit toute une population, toutes les travailleurs à une espèce de non-entité passive qui n'est là que pour travailler, dans la redéfinition marxiste et révolutionnaire devient un véritable sujet, le sujet de l'histoire, le sujet de la révolution, celui qui va faire tomber le système qui l'opprimait au départ. Donc il y a vraiment un équivalent là avec le Dalit des Ambedkaristes qui lui-même est le produit négatif du système de caste, qui, au moment où il se politise et prend conscience de sa condition, devient le pourfendeur du système de caste et va faire avenir une société démocratique. Donc l'imposition du terme Dalit, C'était vraiment un acte d'auto-énonciation qui était censé aussi repolitiser la catégorie de Scheduled Caste, qui est une catégorie administrative neutre pour désigner cette population, d'en faire un sujet émancipé. Voilà, et de s'opposer à la définition dominante de Harijan. Donc dans le mouvement Ambedkariste, donc de ce mouvement d'émancipation, il y a eu deux stratégies parallèles qui avaient été énoncées par Ambedkar. C'était d'abord la prise de pouvoir politique, donc l'organisation politique, formation de partis politiques, etc. Et puis une dimension religieuse, parce qu'Ambedkar avait aussi une analyse de l'intouchabilité comme étant fondamentalement liée donc, au système de caste, et le système de caste fondamentalement lié à l'hindouisme. Donc l'idée qu'il fallait aussi s'attaquer à cette question religieuse et faire en sorte que les intouchables arrêtent de se considérer comme des hindous et donc se convertissent. Et il avait donc étudié diverses possibilités et il s'était finalement fixé sur le bouddhisme comme étant une religion donc, d'origine indienne et plus qu'une religion, une philosophie dans laquelle il voyait une origine... Enfin, dans lequel il pensait pouvoir ancrer justement la philosophie des Lumières, le libéralisme anglo-saxon, etc., dans une conception, dans une tradition locale, donc qui pouvait être renaturalisée, indianisée, etc. Mais sa définition du bouddhisme, c'était liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc il était quand même très... voilà, c'est une réinvention de la tradition. Aujourd'hui, donc, le fait que les Dalits aient fait leur entrée dans le vocabulaire courant des pays occidentaux pose un certain nombre de problèmes. Moi, quand j'ai commencé mon terrain, quand j'ai commencé à travailler sur les intouchables au milieu des années 90, personne ne connaissait le mot Dalit. Aujourd'hui, le mot Dalit, enfin, souvent on me dit « Ah, les Dalits en Inde, les gens connaissent ce mot ». Voilà, donc et les gens connaissent ce mot parce qu'il a été, il y a eu toute une campagne autour de ce mot pour expliquer quel était donc par la société civile internationale pour expliquer un peu cette problématique de l'intouchabilité. Voilà, mais il en ressort donc le Dalit de la société civile internationale, le Dalit dont on parle, le Dalit des Occidentaux en fait est très très différent du Dalit des militants intouchables et d'ailleurs le terme Dalit pour les militants intouchables était vraiment quelque chose qui ne pouvait se dire qu'à la première personne. Un militant intouchable peut dire I'm a Dalit, c'est une façon de revendiquer son identité, cette oppression, cette violence, etc. Mais jamais il n'accepterait qu'on lui dise tu es un Dalit. Là, ça devient extrêmement, c'est extrêmement mal vécu, c'est vécu comme une insulte. Donc il y a cette ambiguïté liée à l'énonciation du stigmate qui fait que souvent ce stigmate peut être énoncé à la première personne, mais que dans d'autres cas, ça devient un problème puisque c'est une façon d'enfermer l'autre dans son stigmate et qui est complètement contraire à ce que cherchent ces mouvements. Qui cherche au contraire à les dépasser. Voilà. Donc, c'est exactement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par parler de la façon dont tout ça s'est passé, la façon dont la société civile internationale a adopté les Dalits. Alors, la première reconnaissance officielle des institutions internationales de la discrimination de caste est intervenue en 1996, lorsque le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, la CERD, accepte d'inclure la caste en tant dans son agenda en tant que basé sur la descendance. Donc il y a un rapport qui est fait là avec la notion de race. Alors c'est le résultat de plusieurs initiatives qui sont issues des communautés d'élites émigrées aux USA et en Grande-Bretagne qui ont essayé d'utiliser leur présence donc en Occident pour essayer de contacter ces organisations et qui ont dès 1980 envoyé plusieurs délégués plaider à Genève à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, au départ, les grandes instances de défense des droits de l'homme qui auraient pu certifier que vraiment la question intouchable était un problème de droits de l'homme se sont montrées assez réticentes ou indifférentes. Donc là, je pense à Human Rights Watch et Amnesty International, qui sont vraiment les deux grandes instances qui permettent aussi de donner la légitimité à une cause. Mais à partir de 1996, donc avec cette première reconnaissance, cette première amorce, là les choses vont s'enchaîner assez vite. Alors, Human Rights Watch entreprend dès 1997 de rédiger un rapport avec le soutien de la Ford Foundation, qui accepte de soutenir financièrement ce projet, à la condition que ce rapport soit écrit selon un critère de participation des organisations dalites et en tenant compte de leur façon de concevoir le problème. Alors, la Fondation Ford y voit donc l'opportunité d'engendrer une coordination nationale plus effective parmi les organisations dalites. Donc là, il y a une forme d'intrusion, ce qui montre donc une volonté de rationaliser un mouvement qui est jugé trop éclaté et trop désuni. Alors, il s'agit donc, sinon de le contrôler, du moins d'exercer une influence sur ce mouvement qui sera aussi consenti qu'efficace, en finançant une instance de coordination nationale du mouvement qui est, donc voilà, il y a une analyse, il y a différents mouvements dalits locaux qui se réfèrent à Ambedkar, etc., mais il n'y a pas d'instance, il n'y a pas une grande organisation qui chapeaute tout ça. Donc l'idée de la Fondation Ford, c'est de faire exister cette direction et de la financer. Voilà. Donc, en 1998... afin de prouver à la Fondation Ford que les organisations locales participent effectivement à l'élaboration de ce rapport, donc Human Rights Watch convoque un meeting d'organisations dalites à Delhi, et cette initiative va déboucher sur la création du NCDHR, donc le National Commission for Dalit Human Rights, qui va obtenir un mandat de 300 organisations dalites à travers le pays. Et alors, l'organisation va être officiellement inaugurée le 10 décembre 1998, donc le jour du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc ce qui montre bien aussi l'idée de faire passer ce mouvement qui a une idéologie quand même extrêmement focalisée sur la caste, très spécifique, très liée à l'œuvre d'Ambedkar, etc., avec un contenu aussi très anti-brahman, donc une forme avec beaucoup de rancœur, beaucoup d'esprit de revanche, etc., sur les brahmanes qui ont été à l'origine de systèmes de caste, donc de faire passer cela dans un cadre beaucoup plus légitime, celui du vocabulaire et de la langue des droits de l'homme, à travers notamment le symbole de cette date. Alors, le rapport de Human Rights Watch s'intitule Broken People. Donc c'est un véritable livre épais, et donc est produit aussi à une époque où il y a énormément de massacres dans une région de l'Inde qui est le Bihar, où il y a des milices de propriétaires terriens qui répriment les intouchables, mais alors là c'est des intouchables qui ne sont pas des intouchables du mouvement Ambedkariste, c'est le mouvement maoïste, donc ils sont aussi dans une logique beaucoup plus de classe, de lutte armée, etc. Donc là il y a des massacres très importants, et donc qui vont être soulignés par ce rapport, de façon à alerter l'opinion internationale. Voilà, ce rapport dénonce aussi la passivité de l'État indien en dépit de tout un arsenal juridique qui est censé lutter contre ces violences de caste, et va parler d'un hidden apartheid. Donc ça va devenir le thème après de toute la mobilisation, hein, qui est une façon aussi de raccorder cette mobilisation des dalits à quelque chose qui est déjà connu, qui peut faire appel à des souvenirs dans l'opinion internationale, et notamment justifier, aussi légitimer l'idée d'une intervention de la société civile internationale, puisqu'elle avait déjà été efficace dans le cas de l'apartheid. Alors, en 2000, une autre instance est créée à l'initiative du NCDHR, c'est l'IDSN, l'International Dalit Solidarity Network, pour coordonner un ensemble d'organisations qui vont regrouper. Alors d'abord les représentants des Dalits dans différents pays, hein, parce que l'intouchabilité existe dans tous les pays d'Asie du Sud, y compris dans les pays musulmans, où bon, c'est une intouchabilité qui n'est plus sanctionnée par la religion, mais il y a toujours une hiérarchie entre différents groupes endogames, etc. Donc il y a des choses semblables. Et puis il y a une volonté d'internationaliser aussi la cause dalit, donc il y a notamment aussi un phénomène d'intouchabilité au Japon avec les Buraku. Voilà, c'est l'ensemble des organisations type NCDHR qui représentent les mouvements locaux dans différents contextes nationaux. Ensuite, deuxièmement, ce qu'on appelle les Dalit Solidarity Networks nationaux. Donc là, il y en a 7 qui sont basés tous en Europe et aux USA, et donc qui sont des réseaux qui sont là dans ces contextes nationaux pour faire à la fois du lobbying auprès des entreprises qui s'installent en Inde pour les sensibiliser à la question de la caste, auprès des gouvernements, et puis aussi pour faire de la propagande, type organiser des expositions, diffuser des films, organiser des conférences, etc. Et puis il y a un troisième type d'acteurs aussi qui est coordonné par l'IDSN, c'est un certain nombre d'ONG de développement, donc de nombreuses chrétiennes, ainsi que des organisations de droits de l'homme. Voilà. Alors l'IDSN et le NCDHR vont donc se concentrer très rapidement sur la préparation de la conférence de Durban contre le racisme, donc conférence des Nations Unies, où donc ils vont faire pression pour demander d'inscrire la discrimination de caste sur l'agenda de la conférence, ce qui sera refusé en raison de l'opposition ferme du gouvernement indien, hein, sous prétexte de la différence en fait entre caste et race. Durban va néanmoins être l'occasion d'une vaste campagne auprès des ONG et des journalistes qui sont présents en marge de la conférence officielle, hein, et notamment au moment de la conférence justement de la société civile qui se tient en amont de la conférence officielle des Nations Unies, et dont une des 6 sessions va être dédiée à la question de la discrimination de caste. Alors, donc là, il y a vraiment, c'est un moment vraiment déterminant où le contact s'est très 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 bien fait entre il y a 180 délégués d'Alit qui étaient là, qui distribuaient un black paper, etc., et qui mobilisaient les journalistes et les ONG et tous les acteurs présents. Et donc là, la propagande va très bien se faire, etc. Et c'est un moment déterminant dans l'acceptation de cette cause intouchable par la société civile. Alors, il y aura une validation de ce succès au niveau plus institutionnel, puisqu'en août 2002, la CERD, donc des Nations Unies, adopte une recommandation générale sur les discriminations basées sur la caste and analogous systems of hereditary status. Voilà, donc qui s'applique à la fois à l'Asie du Sud, mais aussi maintenant à l'Afrique, donc puisqu'on constate qu'en Afrique, notamment en Somalie, en Éthiopie, au Nigeria, il y a aussi un système comme ça de hiérarchie entre ethnies qui peut être semblable et assimilé à la caste. Et 2 délégués permanents vont être nommés à Genève, donc pour travailler sur ces questions. Alors, après cette reconnaissance finale des institutions internationales, là, encore un quart d'heure à peu près. J'ai pris un peu de retard au début, mais bon, c'est pas grave. Après, j'essaierai de boucler. Après cette reconnaissance des institutions internationales, donc ça s'enchaîne à chaque fois. Hein. Il y a donc la société civile accepte, puis les institutions valident, et puis donc du coup, comme ça devient validé, certifié, la société civile s'engage encore plus. Donc là, c'est au Forum social mondial de Mumbai en 2004 que va intervenir la consécration finale des Dalits. Avec notamment le succès de la grande marche des Dalits du NCDHR qui va converger depuis différentes régions sur Mumbai. Alors, je pense que, là, vu le temps, je n'aurai pas le temps d'aborder le dernier point, c'est bien dommage, sur l'ONGisation, mais comme j'ai un peu résumé au début, ce n'est pas grave. Et je vais vous parler maintenant des Dalits vus d'Occident. Alors, voilà, donc... analyser un peu, finalement ce Dalit qui ressort, comment est-ce qu'il est représenté dans cette campagne de sensibilisation vis-à-vis du public occidental. Alors, dans quelle mesure les Dalits vont-ils contrôler leur image? Est-ce qu'ils vont réussir à imposer une définition militante d'eux-mêmes? Et que devient le Dalit lorsqu'il devient l'objet d'une grande cause internationale? Et on va voir que c'est assez différent de ce qu'il était dans le discours militant. Alors, dans son document de présentation, le NCDHR affirme de façon un peu naïve qu'il mandate et qu'il contrôle le réseau international de l'IDSN, donc qui est en charge de toute cette propagande. En vérité, il n'y a aucune instance de contrôle. Et puis, en vérité, ce mandat permet aux organisations, aux différentes ONG membres de l'IDSN, d'endosser un rôle de porte-parole, donc de s'approprier un rôle de porte-parole de la cause intouchable dans leur pays. Donc, il y a ce mandat légitime que on puisse qu'un membre du collectif Dalit en France, par exemple, qui est basé chez Frères des Hommes, puisse se dire un peu porte-parole de cette cause et dire qui sont les Dalits, etc., et parler au nom d'eux. Ces campagnes vont obéir à des logiques de communication et à des techniques de sensibilisation du public occidental, dont le fond misérabiliste contraste largement avec les logiques de l'émancipation Dalit en Inde. Alors qu'en Inde, l'imagerie du mouvement Dalit est dominée par le cachet officiel des portraits et des statues d'Ambedkar. Donc c'est vraiment Ambedkar, la figure d'Ambedkar, qui porte un costume, une cravate, qui porte la constitution et qu'on voit toujours en train de sermonner la nation. Donc voilà, je vous montre la statue. Là, c'est une statue d'Ambedkar comme il y en a des milliers en Inde. Donc c'est vraiment le caractère officiel, la modernité symbolisée par la cravate, etc., puis qu'on retrouve dans des versions villageoises comme ça, resculptées par des sculpteurs locaux. Donc ça donne quelque chose de beaucoup plus proche finalement des gens. C'est une façon aussi de dompter un peu la modernité politique. Enfin, c'est assez intéressant, toujours avec la constitution à la main. Donc on comprend bien que ce type d'image passe assez mal auprès du public occidental qui cherche, plutôt que des hommes en costume cravate, dans les milieux altermondialistes, on préfère les keffiers ou les dreadlocks, Ambedkar avec ses grosses lunettes et sa cravate. Bon, il fallait trouver autre chose. Dans cette communication des ONG, c'est finalement, donc je vais revenir à l'image précédente, là c'était très net. Donc Alors là, on constate une indésirabilité. Bon, c'est l'exemple, Broken People, mais je pourrais vous montrer plein d'autres images. Là, le Dalit mâle est quand même relativement expulsé hors du tableau et il y a une nette préférence pour les femmes et les enfants. C'est très 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 net dans cette imagerie. Je crois que cette indésirabilité du Dalit mâle correspond également au rejet du sujet politisé, qui est très masculin, au besoin d'écarter les peurs occidentales liées aux conflits ethniques et identitaires des pays du Sud, qui ont marqué les années 90, notamment avec le Rwanda. Alors, il en ressort un Dalit inoffensif, dont le mâle éduqué politisé, dont l'idéologie anti-caste confine parfois à la haine du Brahman, est exclu pour rassurer l'auditoire. Il y a un document que vous pouvez voir sur le site internet de l'IDSN. C'est un petit film de 10 minutes qui s'appelle I'm Dalit, How Are You? Et qui sert de document pédagogique à toutes ces réunions pour sensibiliser les gens à la cause intouchable. Alors, c'est très révélateur parce que c'est un film qui donne entièrement la parole aux victimes de la caste. Le mouvement ambedkariste est totalement laissé de côté, complètement ignoré. La politisation intervient, mais finalement c'est les maoïstes, donc c'est les dangereux vilains maoïstes avec leurs armes, et puis la répression qui engendre aussi une répression de milices de propriétaires terriens, une violence d'État inouïe, etc., avec des massacres, des situations de guerre civile aujourd'hui qui sont tout à fait dramatiques en Inde. Et donc, c'est quelque part, il y a l'idée que cette victime, donc on entend une complainte là depuis du début à la fin, donc des gens qui se plaignent de la discrimination, de leur vie atroce, de tout ce qu'ils subissent, etc. Et donc, avec en toile de fond, donc ce risque toutes ces rancœurs débouchent sur une radicalisation et sur l'alimentation du maoïsme et donc une façon qui va dégénérer dans le conflit ethnique. Voilà, donc le message implicite derrière tout ça, un peu sous-jacent, c'est que vu qu'il n'y a aucun acteur responsable pour prendre en charge ces rancœurs, ces revendications, puisque les ambedkaristes, qui sont par ailleurs un mouvement très très légaliste, sont complètement écartés du tableau, c'est un peu un appel à la société civile internationale, aux bonnes ONG occidentales, pour venir un peu mettre de l'ordre dans tout ça et éviter qu'il y ait trop de désordre, plus de désordre dans le monde. Voilà. Alors, l'imagerie de la NCDHR, donc, qui est l'instance nationale des Dalits, est, elle, beaucoup plus mixte, puisqu'elle doit quand même continuer à faire une place à Ambedkar, de façon à quand même accommoder un peu tout ce mouvement d'émancipation Dalit, qui ne renoncera jamais à Ambedkar et à son image. Hein, il y a une forme d'un peu de divinisation, enfin, il y a un peu de fétichisme aussi autour d'Ambedkar. Donc, mais bon, tout en cherchant quand même à créer une nouvelle imagerie qui va être là cette fois-ci. Alors là, ça fait, c'est là que ça fait écho à ce qui se disait hier sur la Pachamama, donc à l'art tribal. Hein. Alors il faut savoir que les tribus indiennes et les intouchables sont deux catégories très défavorisées qui toutes les deux bénéficient de discrimination positive, etc., mais complètement séparées. D'ailleurs, si vous demandez à un intouchable ce qu'il pense des tribaux, il va vous dire qu'un tribal, c'est un espèce de sauvage qui vit dans les forêts. Il n'a pas du tout envie de s'identifier à un tribal. Or là, ce qui est marrant, c'est que justement, les Dalits sont représentés comme avec les formes de l'art tribal, dans une esthétique d'art tribal, donc qui font résonance aux thèmes indigénistes, donc qui sont très prisés aussi par cette société civile internationale. Donc, il y a aussi création de symboles, hein, invention de tradition, avec notamment l'adoption du tambour traditionnel, qui n'a jamais figuré dans aucun mouvement jusque-là d'émancipation Dalit, hein, mais voilà, qui là permet d'évoquer la vie rurale, la tradition, tout en évoquant une espèce de résistance, de cris, voilà, des intouchables, des villageois intouchables. Alors je cite un site internet qui dit « The beating of the drum symbolizes for us here all that is expressed above, anguish, anger, protest, assertion, appeal, demand, proclamation. » Voilà, donc ces symboles qui évoquent la résistance des faibles contrastent avec la modernité politique d'Ambedkar, qui symbolise, lui, vraiment la place des Dalits et des idéaux anti-castes dans la démocratie indienne. Hein, d'ailleurs, le fait qu'il porte la constitution sur ses statuts, c'est toujours une façon aussi de rappeler au village dans lequel on installe ces statuts que, bon, il y a une loi anti-intouchabilité, elle existe, l'intouchabilité a été bannie, et c'est aussi une façon de rappeler symboliquement que cette légalité ne devrait pas s'arrêter aux portes du village. Alors, dans son opposition au gandhisme, le mouvement Dalit s'était d'ailleurs toujours abstenu de valoriser la tradition rurale, hein, contrairement à ce qui est fait là dans cette campagne, puisque la tradition rurale est toujours associée à l'oppression de caste, donc au système de caste, à la religion, à l'arriération, etc., et que le mouvement ambedkariste est au contraire un mouvement qui essaye de populariser les idéaux des Lumières, etc., donc il y avait des logiques complètement différentes. D'ailleurs, la critique de Gandhi, parce que Gandhi, c'est vraiment la bête noire du mouvement intouchable, hein, le symbole de la condescendance, etc., et puis d'une espèce d'arnaque aussi, qui s'est joué vis-à-vis des intouchables au moment des luttes nationalistes et du passage à l'indépendance. Donc la critique de Gandhi est complètement effacée ou alors en retrait. Là aussi, il faut comprendre que Gandhi, c'est une grande figure du mouvement de la société civile internationale, très mobilisée aussi dans les mouvements altermondialistes, etc. Donc c'est devenu un peu une icône, hein, c'est un peu un équivalent de la Pachamama. Enfin, bon, c'est assez différent, mais voilà, c'est un symbole. Bon, aussi, je pense que c'est voilà, Gandhi, c'est aussi un leader du tiers-monde acceptable. Voilà, c'est un peu comme Martin Luther King. Je sais pas, c'est des gens qui sont relativement acceptables en Occident. Voilà, donc stratégiquement, il fallait faire passer un peu cette critique de Gandhi à l'arrière-plan dans cette propagande. Voilà. Tout ça pour vous juste, parce que je pense que là j'ai dépassé mon temps, je ouais. Sens derrière moi une espèce de tension. je vais m'arrêter. Voilà, tout ça pour dire que finalement, ces financements qui sont. Cette acceptation de la cause Dalit quand même par la société civile internationale a quand même des répercussions qui peuvent être vues comme positives. Alors c'est donc ce que je vous disais, hein, que j'ai constaté lors de mon dernier terrain, avec des usages quand même. Donc finalement, ça a incité quand même pas mal d'instances de financement international, ce qu'on appelle les funding agencies, à financer des projets d'Alit, donc à accepter de financer des projets d'Alit au nom des projets de gouvernance, au nom des projets de défense des droits civiques, et que ce qu'en font les militants d'Alit sur place est souvent assez décalé de ce que peuvent entendre les dirigeants de la Banque mondiale quand ils parlent de bonne gouvernance. Je peux vous donner quelques exemples. Là, j'étais dans un district de l'est de l'Uttar Pradesh, qui est un coin très pauvre, et il y a beaucoup de problèmes dans les campagnes, notamment liés à la mécanisation des exploitations qui mettent sur la paille la plupart des travailleurs agricoles. Et que là, il y a ces ONG qui se financent grâce à. C'est des petites ONG qui se sont mutualisées, qui ont formé un réseau, en fait, c'est d'anciens militants d'Alit du BSP, qui ont été écartés par le BSP, et avec aussi quelques maoïstes qui se sont joints à la cause, et qui donc réussissent à capter, qui ont mutualisé, qui ont formé un réseau, qui mutualisent en fait les dons qui leur sont faits, qui se les répartissent, donc ça devient des financements très modestes au niveau local, mais qui avec ça réussissent à faire quand même des choses assez intéressantes, notamment contre la corruption. Alors, il faut savoir que le mouvement d'Alit était devenu de plus en plus dépendant de la classe moyenne d'Alit, donc de toute cette petite bourgeoisie intouchable qui est en train de consolider sa position, qui devient assez petite bourgeoise, etc. Et qui avait eu tendance... Bon, le mouvement était complètement dépendant financièrement des financements de cette classe moyenne, qui imposait aussi quelque part, qui empêchait un peu ce mouvement de plus en plus d'avoir des actions de classe, d'avoir des actions autour des terres, autour des salaires, etc. Là, au contraire, et qui se concentrait largement sur les conversions au bouddhisme. Là, au contraire, ça permet donc à ces militants de la base d'avoir une autonomie par rapport à cette bourgeoisie d'Alit, et donc de se reconcentrer sur des actions qui sont beaucoup plus des actions de classe, et de lutter contre la corruption, ce que la domination des fonctionnaires d'Alit dans le mouvement d'Alit ne permettait pas, parce que eux-mêmes, leurs dons étaient souvent issus de détournement de fonds, etc., ce qui est une pratique complètement généralisée en Inde. Voilà. Donc, ce qui empêchait aussi ces activistes du mouvement d'Alit de critiquer la corruption, en un sens, puisque leur financement venait un peu de là aussi. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour vous montrer ce que la bonne gouvernance devient dans un village d'Alit, moi, j'étais là-bas, il y avait une femme qui était entrée dans un bureau du Block Development Officer, qui est censé aussi distribuer des pensions, puis il y a un programme gouvernemental de distribution de travail dans le cadre de chantiers publics. Et il y a beaucoup de corruption là-dessus. Là, il y avait une vieille femme qui était entrée dans le bureau, qui avait giflé le haut fonctionnaire derrière son bureau en le traitant de corrompu, etc. Et suite à ça, il y avait toute une foule mobilisée par ces ONG, parce qu'ils ont tous des téléphones portables maintenant. Donc ils ont créé une foule qui a encerclé le bureau, ils ont séquestré le Block Development Officer, et puis ils en ont fait une espèce de succès local, etc. Bon, j'ai plein d'autres exemples comme ça qui montrent que la bonne gouvernance telle qu'elle est conçue par la Banque mondiale sur place, réappropriée par ces gens, par cette paysannerie pauvre, ça peut donner d'autres choses. Et puis ça permet donc justement à ces militants de continuer à politiser la base, de continuer à avoir des actions beaucoup plus proches de la paysannerie pauvre que ce n'était le cas jusque-là. Donc voilà, il faut aussi, quand on critique la mondialisation, considérer qu'il peut y avoir des ressources appropriées sur place, etc. Et aller voir un peu ce qui se passe sur place, souvent c'est assez différent de ce qu'on peut concevoir quand on a une vision très critique basée sur l'analyse des textes, de ces analyses plus textuelles ou plus sémantiques de la façon dont ça peut aussi aller contre l'émancipation. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci.
Donc je propose que nous prenions jusqu'à 13h20 à cette pendule, ce qui sera très frustrant parce que, bien sûr, vous prenez du temps. Bon, merci d'avoir essayé de raccourcir un peu. Donc Hervé a plus raccourci, du coup. Mais c'est très compliqué, évidemment, d'exposer une réalité nationale et ensuite de faire construire une analyse. Et puis ensuite, en plus, de raccorder cette analyse à d'autres analyses, qui est un peu le projet ici. Évidemment, c'est très périlleux, quoi. Mais la discussion pourra se poursuivre dans les pauses. Donc on va simplement l'amorcer. Un mot quand même pour dire que ce qui pouvait paraître énigmatique hier soir, savoir pourquoi, comme ça, à la fois critiquer la gauche américaine, critiquer les mouvements de soutien aux indigènes en Amérique latine, etc., comment tout ça pouvait faire sens par rapport à un projet un peu émancipateur et transnational. Je pense que peut-être là, ça commence à s'éclairer davantage pour ceux qui auraient été étonnés par la tonalité des échanges d'hier soir, dans la mesure où ce que on voit bien tout l'intérêt qu'il y a, si on veut véritablement, au-delà de l'intérêt de connaissance, hein, de développer une analyse juste des situations, d'un point de vue politique, l'intérêt, c'est évidemment, dès lors que l'on entend développer des solidarités, de ne pas se tromper et bien voir quelles sont les attentes, les spécificités, les configurations sociales, les luttes, le ressort des luttes engagées par les peuples dont on parle. Et puis le deuxième intérêt, et du coup là on a une analyse, tu dis qu'elle est à 2 degrés, elle est presque à 3 par rapport à la vision spontanée que tu n'as pas, mais qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'abord de critiquer nos regards d'occidentaux pleins d'empathie et de commisération, ou de discours révolutionnaire, mais un discours révolutionnaire qui peut se tromper, et donc faire cette critique, d'aller voir... en réalité, la construction stéréotypée, etc., etc. Mais en même temps, aller au-delà aussi, et en retournant sur le terrain, pour voir que malgré tout, ce n'est pas des idiots culturels, comme on dit, hein, ils sont capables aussi de retourner les instruments mal faits. Et, voilà. Et c'est un peu tout ça qui est important de prendre en compte, peut-être pour repenser et revenir ensuite, comme on le fera ce soir, sur les acteurs transnationaux des résistances à la mondialisation, pour voir aussi les difficultés qu'ils ont à se construire, parce que ces difficultés, elles sont peut-être pour partie liées aux représentations que les acteurs ont à l'intérieur de ces mouvements. Voilà. Et du même coup, ça consiste aussi peut-être cette démarche de manière d'interroger ce phénomène, d'intégrer les acteurs de la mondialisation et les acteurs de la résistance à la mondialisation, de les intégrer à l'analyse et de ne pas oublier de les intégrer à l'analyse, de ne pas faire comme s'il y avait des peuples du Sud et qu'on pouvait aller voir. Mais en réalité, notre regard et nos manières de lutter sont déjà dans l'objet que nous souhaitons analyser. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Donc, 1, 2, 3...
Un petit peu plus loin sur ce que tu as dû faire très rapidement à la fin, donc justement sur ces stratégies de contournement. Moi, je me posais la question, alors dans les deux sens, un petit peu comme ce que disait Bertrand, c'est-à-dire est-ce que justement tous ces textes de ce qu'on appelle la société civile internationale et toute cette vision qu'on donne, qui est très très bien illustrée par l'image que tu es en train de montrer, est-ce que ça n'a pas plus un impact très négatif sur nous-mêmes, enfin sur la vision qu'on a, nous, les Occidentaux, et la difficulté qu'on a à dépasser justement les clichés, les stéréotypes, parce qu'on n'a pas tous la chance d'entendre un exposé comme le tien. Et peut-être plus, et puis aussi me demander, bon, tu as évoqué rapidement comment ils contournaient ça d'un point de vue très très pratique, très politique, mais est-ce que toute cette logique de com qu'ils ont dû développer pour accéder au financement, est-ce que ça n'a pas quand même un impact, un effet sur leur propre image, l'image d'eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de gommer la cravate, enfin tous les symboles de modernité, etc. Est-ce que quand même ça impacte pas, même si effectivement c'est pas des idiots et qu'ils sont capables de détourner les choses, est-ce qu'il y a pas quand même, est-ce que tu sens pas un impact symbolique quand même par rapport à ça dans l'évolution que tu as pu voir dans ton travail? Merci.
Alors moi j'avais deux questions. Alors je suis désolé, je vais un peu sortir de votre exposé, mais en fait. Vous avez dit au départ que vous avez fait un terrain où vous avez commencé en 97-2001, et donc ma question elle porte là-dessus parce qu'elle est intéressante, parce que vous y êtes retourné en fait il y a quelques mois, et donc vous pouvez porter un jugement en termes de développement notamment de l'état de l'Uttar Pradesh, qui est le plus peuplé, l'un des plus pauvres aussi, et je voulais savoir en gros quel regard vous portez sur l'évolution des conditions de vie dans cette région qui traditionnellement est la plus pauvre et la plus peuplée après la mise en place des politiques de libéralisation au début des années 90. Vous y êtes allé en 97, donc il y avait 5 ans qu'elles avaient été lancées, et vous avez quand même un peu plus de recul en y étant retourné en 2010. La deuxième question, elle était aussi liée, en fait, Il me semble que le gouvernement actuel est en train de lancer un recensement où il s'agit en fait de peut-être refaire un recensement des différentes castes. Je pense que c'est prévu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus sur, est-ce que c'est simplement une politique alibi destinée à rassurer en fait les intouchables dans une politique qui est globalement pas très pro-pour actuellement, je suis pas, voilà.
Je voulais juste faire une remarque au premier intervenant qui a parlé de l'ordre libéral ou de l'ordre néolibéral avec la novlangue telle qu'elle a été introduite hier soir, je ne sais pas si vous étiez là. Et bon, il y a eu un exposé par les étudiants en lettres sur la novlangue, voilà. Je pense que c'est l'endroit pour parler du désordre libéral plutôt.
Oui, moi je voudrais te poser une question un peu toute bête, sans doute liée à ma méconnaissance de la société indienne, mais tu as expliqué qu'il y avait des lois pour interdire l'intouchabilité, etc., donc une catégorie qui semble interdite presque, enfin c'est pas la catégorie, le fait, je sais pas comment tu pourrais nous expliquer un petit peu peut-être ces lois, parce que ce qui m'étonne c'est qu'après on en parle, par exemple le droit des intouchables, on les compte, ils existent, etc., enfin comment c'est possible que quelque chose qui soit finalement... qui vise à interdire, et après on reprend la catégorie comme ça, telle qu'elle, dans les discours, c'est comme si ça existait encore. Enfin, je sais pas si tu perçois un peu ma question. Enfin, tu vois, par exemple, comment on les compte, qui c'est qui produit ces chiffres sur les intouchables, est-ce que c'est une catégorie qui existe encore, est-ce que, bon, c'est enfin, je sais pas, voilà, ça me paraît étonnant.
Juste, pas d'autres questions ? Donc, juste une petite question complémentaire pour Hervé, sur... si on compare la structure sociale et les effets politiques, enfin la structure sociale et politique, comme tu l'as fait de la situation bolivienne, si on la compare à la situation vénézuélienne, est-ce que ça nous éclaire sur les relations entre le Venezuela et la Bolivie, ou sur les styles politiques différents des leaders, tels qu'ils peuvent nous apparaître de très loin comme ça ?
D'accord, merci ouais, pour ces questions vraiment intéressantes et pour cette perche que vous me tendez pour pouvoir développer ma troisième partie. sur la question, oui, est-ce que ça renforce pas finalement nos clichés ? Je crois qu'effectivement, là, cette affiche est extrêmement vraiment intéressante, quoi, parce que à la fois elle cherche elle proclame qu'elle veut déconstruire les clichés, puis en même temps elle met en avant un vrai cliché, quoi, le cliché du Kujat de Calcutta, voilà, mais qui se transforme en défenseur du droit des intouchables. Moi je suis assez perplexe, je crois que j'ai pas encore réussi vraiment à analyser pourquoi, mais je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle là-dedans. Voilà, et puis ça témoigne bien en fait, bon, alors du fait qu'il faut qu'on fait à la fois contre et avec, quoi, c'est-à-dire, et puis qu'il y a quand même une logique de communication, donc des techniques de sensibilisation aussi qui font que il faut absolument reproduire ce cliché pour attirer l'œil du badaud. C'est une affiche que j'ai vue pour la première fois dans le métro, après j'étais la chercher sur internet, mais elle est dans le métro à Paris. C'est vraiment très très étonnant, et c'est quasi pernicieux, quoi. De toute façon, enfin, les défenseurs, pourquoi est-ce qu'un défenseur du droit des intouchables, en Bedkar, il est diplômé, donc c'est des gens qui mettent en avant plutôt leurs beaux habits. J'ai même une version au village, voilà, ces femmes. Un groupe de femmes, donc de ces ONG dans les villages, à chaque fois qu'elles sortent, qu'elles vont au bureau de leur organisation, qu'elles vont faire des réclamations auprès des administrations locales, elles se mettent toujours leur plus beau sari, elles se mettent du rouge à lèvres, elles se font belles, elles y vont pas comme des misérables, elles y vont justement dans un habit qui permet de se rendre respectable, qui permet de se faire écouter, etc. Voilà, alors l'entrée des intouchables dans l'espace public s'est fait notamment, alors, voilà, Ambedkar, je vous remontre sa photo, il a toujours la cravate, etc. Donc l'entrée des intouchables dans l'espace public se fait dans des beaux habits, se fait avec des symboles de respectabilité, etc. Donc là, il y a vraiment une perversion en fait de cette logique-là. Ensuite, alors les réactions locales à cette communication. Bon, alors évidemment, c'est assez. Les gens, ils font pas tellement attention parce qu'ils voient pas ces affiches. Elles sont chez nous. Mais ceci dit, j'étais frappé une fois. J'allais rencontrer justement un des anciens leaders du mouvement des Dalit Panthers. Donc les Dalit Panthers, c'est dans les années 70 des jeunes qui sont inspirés des Black Panthers. Et américains et qui ont reproduit ça dans le cadre de leur lutte contre la caste. Donc c'était des jeunes très radicaux qui revendiquaient cette radicalité, etc. Et lui, donc, et c'est eux qui dans les années 70 ont vraiment repopularisé le terme Dalit avec tout ce fond marxiste aussi qu'ils ont réutilisé. Et lui, quand je suis venu le voir, alors en général j'avais l'habitude quand j'allais voir des représentants, des militants Dalit, etc., d'être très 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 bien accueilli. Parce qu'il y a une espèce d'alliance qui s'est faite comme ça entre chercheurs occidentaux et une tradition comme ça. C'est plutôt les chercheurs occidentaux qui ont mis en valeur le militantisme Dalit, alors que les chercheurs indiens, en général, ont souvent ignoré. Donc il y a une espèce de tradition comme ça d'alliance. Et en général, j'étais plutôt très bien accueilli, très favorablement. Et lui me dit, mais alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu toucher l'intouchable? Tu es venu. Tu vas devenir un héros chez toi, c'est ça? Parce que tu es venu toucher l'intouchable. Nous, on en a marre d'être traités comme des intouchables. Pourquoi tu utilises ce mot Dalit? Moi, je déteste ce mot Dalit. Et là, il m'a parlé d'un incident qui s'était passé. Alors, quand le président de la République indienne, qui était un intouchable, était venu à l'Élysée en 1998, et le Figaro avait titré un intouchable à l'Élysée. Et ça avait fait scandale en Inde, dans tous les milieux, y compris les intouchables. Et je m'étais demandé, enfin, puisque les intouchables revendiquaient leur intouchabilité et la politisaient, je m'étais demandé pourquoi. Pourquoi finalement les intouchables eux-mêmes aussi s'opposent à ça. Bon, bah, c'est tout à fait lié à ça. C'est que le mot Dalit, c'était un terme qui était prononçable dans des contextes d'auto-énonciation, mais qui, une fois qu'il est réapproprié par l'Occident, devient une catégorie. Et lui, il m'avait dit d'ailleurs, vous, la façon dont vous utilisez Dalit, c'est plus Dalit, c'est Harijan, c'est le mot de Gandhi, c'est le mot de la misère, c'est le mot du misérabilisme, de la pitié, etc. Donc vous avez perverti ce mot, et donc aujourd'hui, nous le refusons. Et alors aujourd'hui, le mouvement Ambedkaré, c'est un retournement assez intéressant, refuse ce mot de plus en plus, et maintenant ils ne veulent être appelés que les bouddhistes. Parce qu'ils se sont convertis au bouddhisme et ils pensent que ce mot va leur donner une respectabilité. C'est aussi, en un sens, une façon pour cette bourgeoisie dalit de se dissocier. Ce qui se disait aussi hier sur l'Amérique du Sud, c'est aussi une façon de se dissocier de la pauvreté, etc. Parce que dalit, ça veut dire pauvre aussi. Donc c'est des choses très très complexes et très très ambiguës en fait finalement à analyser. Voilà pour la question sur l'évolution du développement en Uttar Pradesh. Alors les gouvernements du BSP, donc de ce parti intouchable, ont déjà, oui, eu des politiques ciblées vis-à-vis des villages à majorité intouchable, donc des villages où il y a une proportion d'intouchables plus importante. Donc il y a eu une politique de développement ciblée qui a amélioré nettement la situation sanitaire de ces villages. Il y a eu des constructions de routes, de pompes à eau, il y a eu l'électricité qui a été amenée, même si elle n'arrive pas souvent, il y a eu les écoles ont été rénovées, etc. Donc là, il y a eu un développement très ciblé, c'est quelque chose qui a popularisé le parti, qui a consolidé le vote pour ce parti. Et puis, il y a une deuxième phase, qui est là plus liée aux nouvelles politiques du gouvernement central de New Delhi, et du parti du Congrès actuellement, qui a été un gros investissement justement dans de nouvelles politiques sociales, parce que l'Inde a de plus en plus de ressources. Maintenant, l'Inde, économiquement, marche bien, même si il y a encore énormément d'inégalités, et de plus en plus d'inégalités d'ailleurs. Mais ça a permis en fait au gouvernement indien de relancer de nouvelles politiques sociales, notamment ce qu'on appelle le rural, donc ce qu'on appelle un programme qui est donc ce programme, le NAREGA, dont j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, qui est un programme, donc c'est un Employment Guarantee Act, donc fondé sur des grands travaux de développement. Et là, c'est un programme qui permet donc aux familles, à chaque famille villageoise, d'obtenir 100 jours de travail par an, à rémunérer en plus au salaire minimum, qui n'est en général jamais pratiqué par les fermiers qui embauchent les journaliers agricoles. Donc là, par le biais de ces travaux, effectivement, il y a énormément de travaux de développement qui sont, il y a des toilettes qui sont publiques, qui poussent à peu près à chaque coin de rue dans les villages, il y a des routes goudronnées, il y a notamment, bon, ils creusent les mares, etc., qui sont des ressources aussi de protéines, parce que ça permet de cultiver le poisson, etc. Donc oui, effectivement, il y a quand même un progrès à ce niveau-là. Je vais essayer de ne pas monopoliser quand même la parole. Pour le recensement de castes, c'est quelque chose qui... Bon, là, je passerai là-dessus, mais bon, c'est quelque chose qui va permettre quand même de souligner davantage quelle est la situation aujourd'hui exactement des inégalités en fonction des castes, etc. Et puis, bon, la catégorie officielle, oui, l'intouchabilité est prise en compte depuis justement la création de cette catégorie de Scheduled Caste dans les années 30. Et effectivement, pour pouvoir... Donc c'est quelque chose sur lequel les intouchables ont eux-mêmes insisté, et qui a été de prendre en compte justement la caste et de faire des études statistiques, etc., qui sont ciblées spécifiquement sur ces Scheduled Caste. Voilà. Et ces lois, etc., bon, la loi... Donc il faut reconnaître l'intouchabilité officiellement, même si l'intouchabilité est abolie, il faut la reconnaître pour que... Et donc il y a une loi antidiscrimination qui existe, et qui... Donc ça a été un des combats, et les intouchables eux-mêmes aujourd'hui continuent à se battre vraiment pour que l'intouchabilité soit reconnue, recensée, énumérée, etc.
Alors, très rapidement. Déjà, c'est vrai que je trouvais vraiment la présentation de Nicolas intéressante, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de similarités. Je m'y attendais pas forcément, disons, avant de t'entendre. C'est vrai que l'ONGisation, par exemple, en Bolivie, c'est un aspect que je n'ai pas forcément abordé dans mon topo, mais c'est vrai que la Bolivie, par exemple, c'est un pays qui aujourd'hui a même connu des ministères financés par la coopération, notamment le ministère des Affaires indigènes. J'avais fait mon terrain en Bolivie, ce qui était, je me souviens avoir fait, suite à la victoire du MAS, il y avait eu des commissions de transition qui s'étaient organisées au niveau des différents ministères qui associaient une grande partie des membres du MAS, des organisations sociales, etc. etc. Et moi, j'avais réussi à me faire ma place dans la commission qui allait rencontrer en fait ceux qui, pas le ministre en l'occurrence, mais son bras droit, avec lequel en fait on était allé discuter pour obtenir les documents, pouvoir les étudier, etc. Donc, une évaluation populaire, c'était une mise en scène en fait de l'appropriation des différents ministères. J'étais très surpris, je suis arrivé dans le ministère des Affaires indigènes, et juste à côté du bureau du ministre, en fait, il y avait un bureau de Danida, c'est la coopération danoise, qui a joué un rôle clé en fait dans la popularisation de l'image de l'indigène à l'échelle internationale, la promotion de la cause des indigènes, etc., etc. Donc c'est vrai que de manière générale, bon, en Bolivie, c'est très clair, il y a la popularisation de la cause indigène est extrêmement liée aux lignes de financement des organisations internationales dans les années 80-90. C'est évident. Donc c'est vrai qu'il y a des stratégies de captation. D'ailleurs, enfin, bon, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est vrai que j'ai quasiment pas utilisé le terme indigène dans mon topo. J'ai systématiquement parlé de paysans. Déjà parce que bon, les mouvements paysans et indigènes c'est pas tout à fait la même chose, mais en plus, enfin, les mouvements indigènes sont datent quasiment des années 80-90, et on y retrouve les marginalisés du jeu syndical paysan. Donc finalement, on devient quelque part indigène parce que c'est une source de financement, donc d'accès au développement. En définitive, c'est toujours ça qui est en arrière-plan. Donc c'est vrai que, et pour faire le lien donc avec votre question, c'est vrai que il y a je crois que autant il faut effectivement essayer de quand on se donne pour tâche justement de défaire la mondialisation, de voir quels sont les ressorts des oppressions structurelles introduites par le néolibéralisme. Autant, en ce qui me concerne, je ferai quand même attention à une chose, c'est que c'est vrai que ce qui m'effare un petit peu du point de vue de la gauche latino-américaine en général, pas seulement le cas de la Bolivie, c'est cette espèce d'amnésie générale concernant l'échec des modèles nationaux populaires des années 50, 60, 70, en gros. Qui étaient quand même des États qui reposaient sur des modèles donc développementistes d'un point de vue économique. Je ne l'ai pas évoqué quand même, le développementisme tel quel, ça pose des problèmes écologiques très importants. Et c'est vrai que si par exemple Morales parle énormément de la Pachamama, etc., aujourd'hui la première mine à ciel ouvert en Bolivie, c'est sous le gouvernement Morales que ça se passe. Donc il y a une espèce de retour à un imaginaire quasi stalinien de productivisme extractiviste à l'ancienne qui est totalement effrayant. Je veux dire, le programme du MAS, là pour l'élection de décembre 2009, il se résumait quasiment en deux points. C'était ce que j'appelle la sainte trinité du productivisme, donc gaz, fer et lithium. Exploration, exploitation, industrialisation. Et de l'autre, c'était le satellite Tupac Katari, du nom du résistant indigène, un satellite donc pour faciliter l'intégration. Donc, en fait, il y a un imaginaire très moderne. Je crois qu'en ça rejoint un petit peu certaines des ambiguïtés qu'on peut déceler aussi dans le mouvement des Dalits. En fait, quand on vit dans un pays comme la Bolivie, on est toujours assez exaspéré du regard, notamment, y compris de nos propres amis altermondialistes, j'ai des amis avec des dreadlocks, qui arrivent en Bolivie et sont effarés, par exemple, de voir des cholitas, ce qu'on appelle les señoras de polieras, ces femmes indigènes avec des nattes. Bon, si on les appelle, nous, des indigènes, là aussi, elles vont très mal le prendre. Mais, le fait qu'elles aient un téléphone portable... Faut arrêter, quoi. C'est pas un choc entre la tradition et la modernité, à mon sens. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était par exemple d'entendre un leader indigène comme Felipe Quispe, qui lui se revendique indigène, Aymara. Lui, son projet, c'était la reconstruction de la nation Aymara, donc autour du lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie. Quand on lui a demandé finalement quel était son projet politique, il a dit, pour moi, ça se résume en deux mots, c'est des tracteurs et l'accès à Internet pour les paysans. Donc, je pense que ça permet de relativiser un petit peu les images qu'on a. Même Evo Morales, on m'a raconté cette anecdote que je n'ai pas pu recouper, mais je trouve qu'elle est quand même assez croustillante. On finira là-dessus. Morales en France, je crois, il avait fait une conférence à Toulouse. Un militant régionaliste occitan lui avait dit, voilà... beaucoup de similarités entre vous et nous. Nous aussi, on a la République française a fait que, au nom de l'accès à l'eau potable, l'électricité, la construction de la République, on a perdu notre langue. Et là, Morales lui a répondu, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de parler votre langue ou d'avoir accès à l'eau potable, l'électricité. Je pense que ça résume beaucoup, en fait, des visions qui structurent finalement, en définitive, le régime d'action de ces mouvements-là.
Merci. On reprend donc à 14h20 à peu près, hein, dans une heure. Voilà.